Mémodio, une mémoire sonore.
Du même mouvement de la main que les 20 000 fois précédentes, Jonas, de son nom d'acier JNS996, rapprocha les lentilles de la lueur ultrasolaire. D'un imperceptible mais parfait mouvement des phalanges, le métal chimiste fit converger les faisceaux de la lampe jusqu'à ce qu'il soit si concentré qu'il semblait presque solide. Sous ses rayons extrêmement puissants, les feuilles du rosier de métal révélaient tous leurs détails. Les filins d'or, qui auraient été invisibles à un œil humain, se mêlaient aux feuillets de platine et de cuivre, dessinant des réseaux complexes de veines dans une chair d'alliage hérissée d'épines, un archipel qui avait toutes les apparences de la vie biologique. Oui, mais sans en posséder le moindre atome. La plante avait été imaginée dans toute une variété de différences. Les folioles variaient entre elles de taille, d'épaisseur, certaines légèrement tordues, atrophiées, paraissant avoir été coupées, paraissant même pourries, parasitées. Il y avait dans la conception de ce qui n'était finalement qu'une sculpture une volonté délibérée d'incorporer un peu de chaos biologique, un peu de ces mathématiques complexes que nous aurions appelées hasard, faute de pouvoir les prévoir, un peu de cette essence qui, dans l'imaginaire des peuples de métal, faisait la singularité du vivant autrefois. Créer volontairement le hasard, c'est se condamner à le voir aussitôt disparaître, songea Jonas. Tout en fixant la plante artificielle dans l'attente du moindre signe de changement, il laissa son esprit dériver vers des considérations floues, des considérations sur ce paradoxe qui consistait à tuer l'imprévisible en voulant le faire émerger. Au bout de quelques secondes de cette digression à son programme, il décida d'archiver ses pensées afin de mieux se concentrer sur l'expérience. Comme à chaque fois, dans la seconde qui précédait l'observation du résultat, une lueur d'espoir l'envahit, avant de s'éteindre aussitôt. Une fois encore, malgré l'exposition à la lueur ultrasolaire du moindre de ses atomes, le rosier était demeuré de métal. Rien n'avait été créé, rien n'avait été perdu, rien n'avait été transformé. Aucune matière biologique n'était apparue. Des heures durant, Jonas réitéra l'expérience, modifiant les paramètres, consignant soigneusement chaque variation des conditions de base à défaut d'obtenir des variations dans les résultats. Il s'acquittait de sa tâche avec toute la détermination de sa programmation, faisant honneur au nom de chair qu'il avait reçu lorsqu'il avait été choisi pour participer à cette recherche qui visait à recréer du vivant, à toucher à cette matière presque mythologique, à en obtenir ne serait-ce qu'un rien, un atome, un moins qu'atome. Lorsqu'il avait juré de consacrer tout son temps à cette quête, il avait choisi de laisser active la partie de sa programmation consacrée aux émotions, croyant qu'il était impossible de vouloir recréer de la matière biologique sans ressentir la fascination qu'elle provoquait. En cela, il se différenciait de ses semblables qui recherchait dans le vivant non pas une expérience radicale de l'être et de l'autre, mais des perspectives d'énergie ou d'ingénierie. Malgré ce décalage, Jonas restait convaincu que son choix était le bon. Le seul inconvénient, c'était que ses émotions demeurant intactes, il ressentait toujours la même déception, la même tristesse à ne pas parvenir au but qu'il s'était donné. Cette raison de vivre qu'il lui était impossible de conceptualiser et qui pourtant structurait son être. Les heures passèrent, au cours desquelles il poursuivit l'expérience. Il s'acharnait. Ce ne fut que lorsque sa batterie principale commença à montrer des signes de faiblesse que Jonas décida de faire une pause. Il éteignit les appareils, sortit de la pièce, emprunta l'ascenseur magnétique afin de rejoindre un des balcons de la partie émergée de la tour où était situé le laboratoire, face à la mer. Là-haut, il s'amarra à une station de recharge, puis, déroulant son câble principal, alla s'asseoir sur un banc, où il déploya ses volets photovoltaïques. Ainsi, ouvert au soleil, au vent, il pensa qu'il ressemblait presque à une de ces feuilles qu'il passait ses journées à étudier en vain. La base du travail de Jonas et son choix de travailler sur la transmutation botanique était lié à des découvertes archéologiques relativement récentes qui avaient fait émerger une ancienne théorie appelée photosynthèse. Théorie selon laquelle les êtres végétaux avaient trouvé un moyen d'utiliser l'énergie directe du soleil pour créer la matière de leur corps. Si le métal chimiste se contentait de trouver de l'énergie dans les rayons du soleil, il était attaché à cette théorie un peu grotesque, car elle lui donnait l'impression de se rapprocher du biologique, de partager avec ce dernier un rapport au monde simple, fondamental, par-delà des différences irréconciliables de nature physique et psychique. Bien que ces écarts presque poétiques le fissent sourire, Jonas demeurait surtout impatient d'emmagasiner assez d'énergie pour retourner à son travail. Il ne trouvait que peu d'intérêt à côtoyer ses semblables. Ainsi, aussitôt qu'il se trouvait seul face à la mer, il accédait au dossier de sa mémoire contenant les divagations les plus originales. La plupart de ses réflexions portaient sur les origines, ces points insondables dans l'espace et le temps qui, comme l'horizon devant lui, demeurait toujours inaccessible. On savait que deux espèces au moins sur cette planète étaient parvenues à des stades de développement qui avaient laissé des traces géologiques et des archives sur différents supports physiques et virtuels. Mais quelles étaient véritablement ces espèces? Étaient-elles biologiques, ayant appris à modifier les métaux et les roches, ou bien directement métalliques? Était-elle apparue spontanément? Avait-elle été construite? Avait-elle coexisté? S'était-elle détruite? Ressemblait-elle à Jonas en l'apparence? On supposait que oui, mais jusqu'à quel point? Le métal chimiste se demandait si un de ces êtres biologiques ayant parcouru le monde avant lui avait contemplé la mer de la même façon que lui. Le rapport de son peuple aux êtres non métalliques passés était ambigu, entre fascination, condescendance, entre le mystère de leur existence et celui de leur disparition totale. Il y avait cette question en suspens. La vie biologique, avait-elle été à l'origine de la vie métallique, ou bien était-ce l'inverse? Peut-être est-ce en partie pour répondre à ça que l'on s'évertuait à recréer du vivant sans succès. Peut-être était-ce en partie pour répondre à ça que Jonas consacrait sa vie à répéter inlassablement la même expérience, alors même qu'elle paraissait de plus en plus vaine. Là-bas, Jonas aperçut soudain un vaisseau sonique qui s'éloignait de la tour. Encore quelques nouvelles expéditions qui arpentaient encore la surface des mers à la recherche de traces de vie. Pourtant, il le savait, hormis des éléments issus de l'érosion des roches, cette expédition ne rencontrerait encore et toujours que l'infinie succession d'oxygène, de sodium, d'hydrogène qui composait les eaux. Autrefois, on le savait, par les archives, les eaux regorgeaient de formes robotiques et mécaniques, mais aussi de formes de vie biologique complexes. Certains affirmaient même, depuis quelque temps, que l'eau était une composante essentielle de cette vie biologique. Évidemment, il était absurde de soutenir de pareilles théories quand on connaissait le pouvoir corrosif de l'eau. Absurde. Absurde. Était-ce si absurde? Et si, à la différence du métal, la vie biologique pouvait émerger de ce qui semblait le plus radicalement nocif, le plus absolument surprenant. Impossible. Sans même attendre la recherche complète de ses batteries, il reprit l'ascenseur, mais au lieu de redescendre directement au laboratoire, il s'arrêta un instant au niveau de la mer, et utilisant une des sondes incorporées à son avant-bras, il préleva une petite quantité d'eau de mer. De retour au laboratoire, il vaporisa l'eau récoltée sur les feuilles métalliques du rosier et en laissa couler un peu à la base de la tige. Puis il ralluma l'appareil ultrasolaire et mit en place les lentilles de cristal. Pendant de longues secondes, il ne se passa rien. Exposés à la lumière, les différents composants de la plante réagirent comme avec celle de l'eau. Un léger nuage de vapeur se forma presque instantanément, puis commença à s'étendre. Lorsque la moitié de la pièce fut baignée dans un léger brouillard, le phénomène bascula tout d'un coup dans un rêve éveillé. La lumière, traversant les gouttes d'eau qui se rassemblaient dans l'air, commença à se diviser en multitudes d'arc-en-ciel illuminant la pièce. Le temps de réadapter ses capteurs oculaires, Jonas nota que les feuilles du rosier étaient en train de se recroqueviller comme sous l'action d'un feu trop violent. Et lorsqu'il commença à sentir des picotements sur l'ensemble de son corps, il décida qu'il fallait interrompre l'expérience. Il défit les premières lentilles qui concentraient la lumière, mais à son grand étonnement, la température continua de monter et la lumière de se diviser en myriades de couleurs. La lumière ultrasolaire ne passait plus par les cercles de cristal, mais se répandait directement dans la pièce, chaque goutte suspendue dans l'air agissant comme une lentille microscopique. Jonas tenta d'éteindre la lumière, mais l'humidité de la pièce avait, semble-t-il, rendu les contrôles inopérants. Il essaya alors de s'attaquer directement à l'alimentation de l'appareil, mais impossible. Impossible de débrancher le dispositif. Voyant que la pièce tout entière se transformait en récipient sous pression, il s'empara du rosier, se précipita dehors, claquant les portes blindées derrière lui. Une seconde après avoir refermé la deuxième porte, une implosion sèche avala la vapeur et l'ampoule ultrasolaire explosa. Appuyé contre le mur, en attendant les secours, Jonas entreprit d'examiner le rosier. Les folioles avaient été abîmées par les ricochets de la lumière, comme si ces faisceaux avaient été des lames acérées. Plusieurs d'entre elles étaient roussies. Les quelques bourgeons avaient coulé le long de la surface comme des larmes. Les épines, d'un alliage plus dur, étaient les seules parties qui étaient demeurées intactes. Hélas, comme à chaque fois, pas un seul atome du rosier n'était devenu biologique. Seule une occurrence indiquait une différence par rapport à la composition atomique originelle, une légère surcharge de fer et de minéraux à la pointe d'une épine. Dépité, Jonas posa le rosier à côté de lui, demandant quelles seraient les conséquences qu'il devrait affronter pour avoir détruit du matériel. Qui sait ? Peut-être que le tribunal jugerait que son penchant chaotique relevait d'une psychologie biologique et le féliciterait. Ce ne fut qu'au bout de quelques secondes qu'il prit conscience qu'un signal de douleur lui était envoyé par ses récepteurs digitaux. Bien sûr, voilà qui expliquait le léger pic minéral de la pointe de l'épine. En saisissant le rosier dans la panique, une des membranes en alliage métallique de sa main avait été percée. Afin d'éviter une exposition de ses circuits à l'air libre, Jonas prit dans sa main valide son kit de soudure à froid et rapprocha son autre main afin de la réparer. Et c'est là. C'est là qu'il la vit. Impossible, impensable, là, au bout de son doigt de métal. Une goutte de sang.
Mémodio, une mémoire sonore.